Paul Drouot, L'œil est rouge. Ce fut en quittant les Marbois chez qui nous venions de dîner, et tandis qu'Edmond de Mingham s'efforçait à me décrire la machinerie de son yacht, que je pris la décision de partir coûte que coûte au plus tard le lendemain matin. Je m'arrêterai n'importe où entre Marseille et Vintimille, pourvu que l'endroit me parût désert et morne sous un ciel luisant. Laure éprouvait sans doute à se moquer de moi, un plaisir toujours vif, mais ce soir elle avait dû rire avec plus de malice et plus de gaieté que jamais à la pensée de ma déconvenue quand on allait se mettre à table sans elle, sans l'attendre, et que je commencerais peut-être à me douter qu'elle n'assisterait point à ce dîner très détestable. Laure de Mingham est brune, svelte, on la prendrait pour Proserpine. Les cils baissés, mais du moment qu'ils se séparent et qu'elle fait la folle avec ses yeux de biche, c'est Laure la seule, la merveilleuse Laure, Laure, mon amour. Mais pourquoi m'a-t-elle choisi pour que je souffre? Pourquoi depuis 6 mois, tour à tour animée, silencieuse et taciturne, n'encourage-t-elle ma passion que pour la décevoir? Prenait-elle des engagements qu'elle s'empressait d'oublier? Et s'amusait-elle à nier le lendemain qu'elle eût promis la veille, quoi que ce soit? Laure est libre, elle est veuve, et par moments j'ai cru. Oh, mais non, Laure est trop belle pour aimer un homme tel que moi. Le front dans les mains, je balbutiais ces paroles amères. Le rapide filet. J'avais acheté sur le quai de la gare un guide de la Côte d'Azur. Je lus le nom d'Entraigue et que cette petite localité est dépourvue de toute ressource. Mon guide datait, j'imagine, du temps des manches à gigot, car je découvris en sans peine dans Entraigue une pension de famille avec piano et vue sur le mer, ce qui me décida, la vue sur la mer, a occupé une humble chambre à l'étage le plus élevé. J'embrassais depuis ma fenêtre le vaste horizon qui s'étend du cap des Issambres à la pointe du Camara. Je me plais à croire que l'été, Entraigue est un endroit charmant. Mais au mois de mars, en plein équinoxe, les barques n'osaient point se risquer hors de la jetée, dépouiller leurs voiles brillantes. Un vent glacé qui changeait sans cesse de direction, et de nom avec cela, tordait les pins, courbait les palmes, soulevant la poussière des routes. Et quand il cessait de tonner, de siffler et de braire sous les portes, la pluie tombait du ciel obscur sur la mer sombre et plate. Oh, pour peu qu'on éprouvât le désir de se promener, il fallait s'enfoncer dans les taillis humides, gagner la profondeur des bois, vous préférez le coin au feu. Si j'étais venu comme un autre chercher dans la lumière ma consolation, j'aurais eu le droit de récriminer, mais je n'avais rien souhaité que de sentir ma douleur croître et s'épanouir au soleil. À cela près qu'il se montra fort avare de ses rayons, j'obtins un résultat très honorable. C'est certainement à Entraigue que j'ai passé l'une des semaines les plus affreuses de ma 21e année. Un mot bref et désespéré que j'avais adressé à Laure était demeuré sans réponse. J'attendais chaque jour avec fièvre que sonnât l'heure du courrier. Je me précipitais au-devant du facteur. Bientôt, je regagnais ma chambre, les mains vides, la tête basse. Je me jetais dans un fauteuil. Je revoyais les 3 boudoirs, le divan couleur de mille roses, les murs pâles et éclairés. J'écoutais la conversation. Combien de fois alors j'ai refrainé l'envie de courir à la gare, de sauter dans un train, où il n'était guère fréquent. Et quand je regardais ma porte, j'avais besoin, pour ne pas m'élancer vers la rue comme un fou, de me retenir à un meuble. Oh, j'entendrai toujours le facteur. « Allons, ce sera pour demain, elle vous écrira, votre petite. » Ce soir-là, je n'avais pas eu le courage de remonter l'escalier. Oh, j'étais sorti, n'en pouvant plus. Par les doux chemins détrempés, je marchais à grande enjambée. J'évitais les ornières avec l'adresse d'un somnambule. Je suivais ma pensée, comme si je l'eusse aperçue vivante et qu'elle me précéda. Tombé à 5 heures chez l'or demain soir, mais elle ne me recevrait pas. Lui écrire, mon pauvre orgueil s'y opposait, ma dignité. Lui écrire, lui demander pardon, en somme, d'avoir fui. Mon visage se crispa, ce qui pour immédiat effet de me rappeler à la réalité. Des oliviers bordaient la route. De chaque côté, balancés par le vent, des anémones, des giroflées, des tulipes et des œillets formaient des parterres touffus. Je m'étais engagé dans une allée privée. J'allais revenir sur mes pas quand un vieil homme, surgissant de derrière un arbre, me coupa la retraite alors que je m'y attendais le moins. « Si c'est pour acheter des fleurs, bien sûr !» Sa physionomie soupçonneuse contrastait si bizarrement avec la gaieté de l'accent que je ne pus m'empêcher de sourire, en lui faisant signe que oui, que je venais bien pour cela. Il en parut surpris, je l'étais davantage. Un horticulteur à entraigue. Voilà qui me tirait d'embarras tout à coup. Il me confia qu'il expédiait jusqu'à Londres et jusqu'à Berlin. Que les particuliers ne l'intéressaient guère, que d'ailleurs, il ne tenait pas à cette sorte de clientèle. Nous traversions des carrés de haies. Je me penchais, cueillant les plus clairs, les plus fermes, ce qui ressemblait à la chair mate des épaules. Ma gerbe croissait à vue d'œil, et nous étions deux à jeter sans cesse de nouvelles tiges par-dessus les autres. Le bonhomme riait de me voir aller et venir, me baisser, remuer, bondir. Je dansais sans qu'il m'en doutât, ni du transport qui m'animait. Je pressais du bras, de la main, les belles fleurs contre ma bouche. J'allais me sauver ainsi, refusant qu'on les bottelât, plié en deux sur ma récolte, quand, avec une prestesse dont je ne l'eus pas cru capable, le vieux jardinier, mis en joie par mes airs de gamin ivre, piqua au centre du bouquet un énorme œillet carminé bordé d'un fin liseré rose. Certes, il fallait que je fusse ivre. La nuit tombait. Je ne trouvais plus mon chemin. Oh, j'avançais quand même. Le vent secouait mon chapeau. Mais contre moi, pas un pétale qui frémit et pas une fleur qui tomba, captif de ma longue étreinte, l'haleine suspendue, pâmée. Enfin, les premières maisons d'entraigue s'enlevèrent en noir sur la mer encore lumineuse. Je longeais un mur délabré. Une odeur triste et pénétrante me fit soudain tourner la tête, et je découvris, à l'abri d'un antique pin parasol, voilé d'eucalyptus bleuâtre, les lèrtres et les blanches tombes d'un cimetière abandonné. Je frissonnais de pitié, et pourtant je pressais le pas comme si j'avais hâte de m'éloigner. Je dus même faire un brusque mouvement qui rapprocha de mon visage une touffe embaumée de haies. Je fermais les yeux, j'aspirais. Une voix alors, une plainte s'élevant dans la solitude, un cri, le soupir d'un enfant glaça mon cœur, je trébuchais. Une fleur, gémissait la voix, une pauvre fleur, une fleur passant pour les morts. Je ne doutais pas un instant que je fusse le jouet d'une illusion, et qu'il fallait l'attribuer aux nobles sentiments qu'ont développé en moi l'éducation religieuse et les soins d'une mère attentive. Tout de même, je m'arrêtais. Ne suffisait-il pas que j'eusse éprouvé jusqu'à l'hallucination le désir secret d'orner ces tombeaux, sans que je fisse le geste, somme toute assez ridicule, de lancer en l'air un œillet charmant pour qu'il retombât de l'autre côté du mur parmi les débris de couronne et la poussière des morts. D'ailleurs, c'était à l'or qu'ils appartenaient tous. Je les avais cueillis pour l'or et touchés tour à tour et baisés avec frénésie. Le débat fut court mais pressant. Tout à coup, je plongeai la main dans l'enchevêtrement des tiges et j'en cassai une au hasard. L'œillet rouge glissa sur ma manche. Je le saisis, je le froissai et le projetai violemment le plus loin possible en arrière. Ah, celle qui a tant souffert, celle qui a tant aimé et qui fut belle et rendue plus belle par la douleur et par l'amour. Ayant satisfait de la sorte à mes nerfs plus qu'à mon devoir, je repris le chemin d'Entraigues sans plus de scrupules ni d'angoisse. J'employai toute ma soirée à bourrer d'œillets trois paniers que j'expédiai à la même adresse. Je ne m'en remis à personne du soin de les porter au train. Faisait complètement nuit. Une molle brise, le ponant, avait succédé au mistral. J'éprouvais un bien-être extraordinaire. Je m'abandonnais par avance au plaisir que j'allais goûter en m'endormant pour la première fois depuis mon arrivée d'un sommeil calme, béni. Il était environ 2 heures du matin quand je fus réveillé par un bruit insolite dont j'eus d'abord quelque peine à déterminer la direction et l'incertaine provenance. Je m'étais dressé sur le coude. Un long ray de lune frappait sur le plancher et je m'aperçus qu'il bougeait. En effet, ma fenêtre, ou plutôt mes volets, devaient être ébranlés par quelques poussées du dehors que je m'expliquais mal. Un vaste silence régnant jusque sur la mer assoupie. On eût dit que des mains maladroites, légères, tentaient d'écarter les panneaux de bois, y meurtrissant leurs faibles doigts, et deux guerlasses frôlaient le mur comme si elles eussent craint de m'effrayer en heurtant fort. Je sautai à bas de mon lit, ma respiration était des plus égales et mon cœur battait un coup régulier. Je m'approchai de la fenêtre, j'en fis jouer l'espagnolette, chassai brusquement les volets. Un flot de lumière m'inonda. Et comme je clignais des yeux, je reçus en pleine poitrine, lancé de près avec douceur, un énorme œillet tout déchiqueté et taché de boue. C'est en me baissant pour le ramasser que je reconnus sans le moindre trouble, mais d'une âme au contraire infiniment sereine, l'œillet carminé, l'étrange œillet rouge bordé d'un fin liseré rose dont j'avais quelques heures plus tôt, sur la route, brisé la tige. Je le conservais dans la main, tout en regardant au-dessous de moi le jardin plein d'ombre, la plage et la mer. Je ne voyais rien, car je souriais comme fait celui qui écoute un cœur de voix fraîche. La matinée était fort avancée. Malgré que mes paupières fussent traversées de rayons et mon front moite de sueur, je refusais de m'arracher à ce repos grisant qu'on ne goûte en sa source que parmi le bourdonnement des premières heures du jour. Je ne dormais pas si profondément que je l'entendisse dans les couloirs le va-et-vient des domestiques. Soudain, je tressautais, je jaillis à mi-corps, plus que je le bondis hors de mes couvertures. On parlementait à ma porte. Je faillis crier « L'or, l'or !» Le parquet craqua, il y eut un silence, et trois petits coups frappés. « Est-ce que vous pouvez me recevoir ?» Je m'exclamai, je barbotais, je fus stupide. Une seconde, je demandais une seconde, le temps de passer un veston. J'étais au lit. Et puis après, Oh, mais décidément, c'était bien elle. Après, entrez, ma chère. J'étais retombé sur mon oreiller. Je crispais les poings de bonheur. L'aure à Entraigues, l'aure dans le midi. Mais quoi de plus naturel? Elle faisait une croisière en Méditerranée sur le yacht d'Edmond, son beau-frère. Je n'étais pour rien là-dedans. L'aure entra. Elle entrait seule et je songeais à toutes les femmes, ses servantes. Elle s'avançait, piquante et superbe, enfantine et majestueuse. Oh, je tremblais, je claquais des dents. Elle me fit la révérence. Mazette, vous vous mettez bien une chemise toute en soie. Elle s'était assise au pied de mon lit. Elle me défilait sa petite histoire. Edmond, le yacht, la croisière, et ce soleil fou dehors aujourd'hui. J'éclatais de rire, tout pâle, immobile. Oh, je n'étais guère en état de trouver quelque chose d'autre. Et tout à coup, elle s'interrompit. Mais qu'est-ce que vous fabriquez là? Je pétrissais entre les doigts, sans y prendre garde, les pétales flétris d'un œillet foncé. Je me souvins. L'aurore se tut. Un imperceptible changement s'opéra dans sa gaie physionomie. On vous a donné cette fleur? Je répondis oui, gravement. Alors je vis ses beaux cils battre. Le sang affluait à ses joues. Elle me regarda dans les yeux et elle fit: Donnez-le-moi.